carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Bonjour, bienvenue à Carrefour des Arts. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour notre série dédiée à l'Art Nouveau, en compagnie de notre spécialiste maison, Brigitte Ducousseau-Mao. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Dans les précédentes émissions, nous avons abordé les origines du mouvement Arts and Crafts, né en Grande-Bretagne dans la deuxième moitié du 19e siècle. Nous avons parlé également de ses principes fondamentaux, puis un éclairage sur Charles Robert Ashby et le mouvement des pré-raphaélites. Aujourd'hui, nous porterons un regard particulier sur l'art nouveau en Allemagne et en Autriche dans la période entre 1880 et 1900. Ce mouvement a donc connu vraiment une influence bien au-delà de la Grande-Bretagne pour toucher presque tous les pays européens. Il s'agit d'un courant de pensée capital dans l'évolution culturelle du XXe siècle.
Un mouvement très important parce qu'il encourageait la relation entre l'art et le quotidien et concernait en cela tous les pays et toutes les couches sociales. Si le mouvement esthétique international, plus connu sous le nom d'Art Nouveau, a pris naissance en Angleterre autour de 1860, il s'est étendu par la suite à l'Allemagne et à l'Autriche. Dès 1880, les idées des deux théoriciens du mouvement Arts and Crafts, John Ruskin et William Morris, étaient parvenues en Europe, diffusées par des revues d'art décoratif comme The Studio.
Oui, pourriez-vous peut-être nous rappeler brièvement l'idée de base de cette doctrine qui a tellement séduit les artistes européens de cette époque ?
Les jeunes artistes allemands et autrichiens adoptèrent cette idée essentielle de John Ruskin que le salut de l'esthétique artistique, pour être crédible et convaincant, ne pouvait venir que de l'art et de la vie. Et cette pensée devint leur devise. Ils furent encore plus audacieux que les Anglais en appliquant ces principes aux produits industriels et en transformant les objets usuels en œuvres d'art. L'art nouveau allemand et autrichien fut moins politique, moins idéaliste, plus concret et en rapport plus étroit avec la vie quotidienne. Il fut surtout moins élitiste que l'art nouveau anglais, dont les productions manufacturées au coût très élevé ne pouvaient être acquises que par la classe aisée. Et d'une certaine manière, il fut plus fonctionnaliste et pas en cela plus populaire. Ce ne fut pas un mouvement de révolte contre l'industrialisation, comme ce fut le cas pour le mouvement anglais, mais une attitude idéologique dissidente contre l'esprit conservateur de ces deux pays en cette fin du XIXe siècle.
Oui, qui vivait sous la contrainte de l'étiquette monarchique.
Les jeunes créateurs refusaient la stagnation mentale qui pétrifiait ces pays trop attachés à leur passé et aux traditions, paralysés par des administrations étouffantes qui refusaient toute innovation. Le conservatisme culturel de la Vienne fin de siècle était légendaire. Le compositeur Gustav Mahler disait « Quand la fin du monde arrivera, je retournerai à Vienne, car tout y arrive 20 ans plus tard. »
On peut encore l'entendre aujourd'hui d'ailleurs.
Parfaitement accepté et respecté en tant que directeur de l'opéra et chef d'orchestre, Gustav Mahler était totalement incompris et mésestimé comme compositeur. Ces mouvements artistiques contestataires qui se sont constitués à ce moment se sont essentiellement opposés aux valeurs surannées de l'ancienne société qui ne voulait admettre aucun changement et qui, paradoxalement, avait déjà installé l'éclairage électrique dans les villes et circulé dans des automobiles les plus perfectionnées.
Oui, sur le plan architectural et urbanistique, beaucoup de villes de cette région en Allemagne et en Autriche étaient assez évoluées à cette époque déjà.
Des groupements de jeunes artistes progressistes, désireux de faire triompher l'art moderne, se sont formés dans plusieurs grandes villes et ont pris des formes très différentes. L'art nouveau s'est tout d'abord installé en Allemagne, en Bavière plus précisément, à Munich, où s'est opérée une première sécession qui fut fondée en 1892 par Hermann Obrist, August Händel et Bernard Panhoek. Ces artistes ont créé le Jugendstil, ou style de la jeunesse, dont nous parlerons plus longuement tout à l'heure. En 1897, survint la sécession viennoise menée par plusieurs artistes comme Karl Mohl, Joseph Maria Olbrich, Joseph Hoffmann et dont le président n'était autre que le peintre Gustav Klimt.
Oui, autant d'artistes et architectes qui ont suffisamment compté dans l'histoire de l'art pour mériter une chronique particulière dans une deuxième partie de notre émission d'ailleurs.
L'Art Nouveau s'est installé en Allemagne grâce aux mécènes qui se ralliaient à la cause des artistes et les soutenaient matériellement. Ce fut le cas de l'archiduc Ernst Ludwig von Essen, petit-fils de la reine Victoria, qui par ses bienfaits a permis l'apparition de la colonie artistique de Darmstadt en 1899.
Nos auditeurs se souviendront que le grand-duché de Hessen-Darmstadt faisait partie de l'Empire allemand et que l'archiduc régnant, ce Ernst Ludwig von Hessen, était le petit-fils de la reine Victoria Ière, comme vous venez en effet de nous rappeler, Brigitte du Kosomao. Et cette grande reine épousa en 1840 Albert de Saxe-Cobourg, d'où les relations familiales anglo-germaniques de l'époque. Cette petite précision historique faite, continuons donc notre exploration de l'art nouveau en terre germanique.
L'art nouveau a pris une extension extraordinaire en Autriche parce que les artistes furent soutenus par le gouvernement. En effet, la sécession viennoise fut imposée en Autriche comme un art officiel. Sous le règne de l'empereur François-Joseph, Vienne était une ville éclatée, en plein déclin.
Oui, on peut dire, oui. Encore que, en tant que viennoise, je peux dire que François-Joseph était tout de même assez populaire, en tout cas à Vienne. Bien sûr, c'était la capitale. Il était connu comme un monarque libéral et assez éclairé quand même. Enfin bon, je vous laisse continuer.
L'ambiance y était néanmoins étouffante pour les artistes qui n'arrivaient pas à placer leur art nouveau.
Oui.
L'Empire était difficile à gouverner et l'idée qu'il puisse y avoir une unité de pensée dans un empire où l'on parlait 17 langues se délitait. Ce gouvernement viennois est devenu le mécène des artistes sécessionnistes, car ces derniers refusaient par leur regroupement le nationalisme fractionniste. Ils étaient, tous ces artistes, emblématiques d'une idée unificatrice. Et c'est ce qui a séduit le gouvernement, qui a vu dans ce mouvement de la sécession l'occasion de relancer un certain nationalisme.
Merci aux artistes, car un nationalisme basé sur un mouvement artistique, c'est tout de même assez noble, non ?
C'est assez logique si l'on considère, comme le firent John Ruskin et William Morris, que l'art, c'est la vie.
Oui.
Dès 1899, le ministre autrichien de la Culture a créé un conseil artistique pour promouvoir ces tendances artistiques fédératrices, et les artistes ont bénéficié d'un mécénat officiel qui a légitimé l'Art Nouveau à Vienne. L'architecte Otto Wagner a reçu de nombreuses commandes publiques. Parmi celles-ci, on peut citer la Caisse d'épargne postale de Vienne, l'église Saint-Léopold à Steinhof.
C'est un asile psychiatrique qui est devenu par ce fait une grande attraction touristique aujourd'hui. Et puis il a fait aussi les stations du réseau ferroviaire de la ville, qui sont aujourd'hui les stations du métro, et je pense un certain nombre de ponts également.
On peut parler aussi de l'artiste Coloman Moser.
Absolument.
Qui a redessiné les timbres postaux impériaux. Et on peut également parler de la nouvelle école des arts et métiers qui a été ouverte en 1899, où beaucoup d'artistes de la sécession ont été nommés à des postes d'enseignants. Le pavillon de la sécession lui-même a été placé au cœur de la cité.
Oui, cette fameuse bâtisse toute blanche, comme un cube, avec une coupole dorée ouvragée en motif de feuillage. On peut en effet l'admirer en plein centre-ville, oui.
Et on peut même discerner dans cet empressement du gouvernement à aider et soutenir la sécession un désir de faire de Vienne le centre de l'art et du design international, la volonté de donner à Vienne un rôle majeur dans l'histoire de l'art du XIXe siècle. Ce bouillonnement intellectuel et artistique provoqué par la sécession fit effectivement de Vienne, dans le dernier quart du XIXe siècle, le berceau de la modernité, tant dans les arts plastiques que dans la musique ou dans la littérature. Nous pensons tout naturellement à Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, à Arnold Schönberg, qui a bouleversé le système tonal en musique,
oui.
Alban Berg, Anton von Webern, Stefan Zweig, Alfred Kubin, ou encore Robert Musil, qui a écrit « L'homme sans qualité ».
Bien connu, oui. En effet, il y régnait une effervescence intellectuelle singulière qui faisait la gloire de Vienne et dont la vie culturelle aujourd'hui est encore fortement imprégnée, et pas seulement en Autriche d'ailleurs.
Il nous faut maintenant relater et expliquer l'histoire de ces mouvements et revenir plus précisément sur leurs conditions d'émergence. Je vais tout naturellement commencer par l'Allemagne, car le développement de l'Art Nouveau y est antérieur au mouvement sécessionniste de Vienne et n'a pas eu tout à fait le même sens ni la même résonance.
Oui.
D'ailleurs, plusieurs centres d'Art Nouveau se constituèrent en Allemagne, à Munich, à Darmstadt, à Dresde, à Berlin. On désignait alors l'Art Nouveau sous le nom de Jugendstil. Ce terme intégrait à la fois la notion de jeunesse héroïque, de pureté esthétique et de mysticisme. Ce mouvement s'élevait contre la rigidité de pensée des autorités gouvernementales en ce qui concernait l'évolution naturelle de l'art vers les arts appliqués. Et ce fut essentiellement par l'intermédiaire des revues d'art telles que Pan ou Jugend, dans ces revues, que les créateurs allemands ont défendu le style nouveau. Jugend, publié en 1897 à Munich, était tiré à 30 000 exemplaires par semaine, ce qui permit au Jugendstil de s'épanouir en Bavière. Le premier numéro de Jugend ne laissait aucun doute sur le message que le journal voulait transmettre. La couverture montrait deux jeunes femmes vêtues de blanc, chacune tenant par la main un vieil homme noir rabougri et revêche, qui se recroquevillait et ne voulait plus avancer. Elles essayaient de le chasser d'une verte prairie.
Oui, ces images nous font penser à ces mouvements des années 60 du siècle dernier, comme Love and Peace ou autres Flower Power, etc.
Oui, ces mouvements menés par des idéaux et des utopies qui font avancer le monde. Et chaque semaine, la revue annonçait un thème différent. Elle offrait un regard large sur l'art et le design international, présentait les récentes découvertes scientifiques susceptibles de montrer les liens existants entre l'art et les sciences de la vie, Kunst und Leben. Ce journal était donc devenu une source d'inspiration pour les artistes. C'est dans ce journal Jugend que parurent pour la première fois les illustrations du biologiste et philosophe allemand Heinrich Haeckel, qui a vécu entre 1834 et 1819. Il travaillait particulièrement sur les micro-organismes des fonds sous-marins. Ses planches de dessin de botanique ou de biologie étaient très belles et dépassaient toute création sortie de l'imaginaire humain.
C'est une éternelle fraternité intime entre les arts, les sciences naturelles et les ésotérismes qui sont, je pense, assez caractéristiques des fins de siècle, non ?
Je pense aussi que tout cela est très caractéristique de fins de civilisation. En 1899, Haeckel publiait « Kunstformen der Natur », les formes artistiques de la nature et les énigmes de l'univers qu'il avait observées à travers l'oculaire du microscope. Ces illustrations montraient des végétaux inconnus, des algues microscopiques, des méduses ou des étoiles de mer qui procurèrent aux artistes un répertoire de formes fabuleusement nouvelles, abstraites et pourtant naturelles. Hermann Obrist, considéré aujourd'hui comme le père du Jugendstil, employait ces formes naturellement abstraites dans tout son art. Les formes effilées et tortueuses de ses motifs suggéraient des végétaux étranges et exotiques. Il proclamait que la dynamique de la nature, plutôt que la nature elle-même, devait être le sujet de l'art.
Oui, c'est vraiment très intéressant. Ça fait penser à la notion philosophique du vitalisme, une vision très moderne finalement, basée sur le culte du corps, du naturel, du végétal, de l'organique, que nous célébrons d'ailleurs aujourd'hui aussi.
D'ailleurs, Obrist fut un artiste très avant-gardiste. Il fut l'un des premiers artistes à réfléchir sur le langage automatique de l'art. En écrivant un monologue intérieur de ses pensées intitulé « Vortex », extatique ou cortex extatique, on ne sait pas trop si il faut changer la lettre, qui se présente sous une forme décousue en apparence et dont l'enchaînement est néanmoins logique et poétique surtout. Je vais vous en lire un petit peu.
S'il vous plaît.
Dynamique, énergie, force, intensité de la courbe, cigarette, sculptée, volute de chapelle, rococo, zermatt, vol de mouette, papillon, colibri. Une large place est laissée à l'inconscient dans le processus créatif du Jugendstil.
Oui, c'est une technique d'association libre qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui, que le grand viennois Freud a expérimenté dans la fameuse voie royale de l'inconscient. Par les rêves, le célèbre déclic qu'il a eu en 1900. Et à Vienne, d'ailleurs, dans la forêt viennoise, il existe même une stèle en souvenir de cette découverte. Revenons en Allemagne, où Hermann Obrist et Bernard Pankok donnèrent une vision encore différente à ce mouvement.
Oui, Hermann Obrist et Bernard Pankok donnèrent une vision moniste du monde fondée sur l'unité de l'homme, de Dieu et de la nature. Cette vision était celle qui était en vigueur dans les cercles artistiques munichois où le monisme et la théosophie étaient les deux croyances ésotériques de nouveau en vogue en cette fin de siècle. D'ailleurs, Heinrich Haeckel fut le fondateur de la Ligue moniste en 1904.
Le monisme, Brigitte Ducoussomao, pourriez-vous nous redéfinir brièvement ce terme ?
Alors, le monisme, qui vient du grec monos, qui veut dire unique, a été pour Haeckel une idée que l'unité de l'esprit et de la matière ne faisait qu'un. N'était qu'une seule et même chose. Alors ce monisme avait déjà été initié par le Suédois Swedenborg au XVIIIe siècle.
En effet.
Et c'est une approche théologique du monde qui soutient la croyance mystique selon laquelle la création et le créateur ne font qu'un, monos, unique. Cet éclairage du Jugendstil par le biais du monisme nous renseigne mieux sur les rapports de ces artistes avec les recherches d'Haeckel et sur les thèmes fréquemment choisis par les artistes fondateurs du Jugendstil, comme ces jeunes filles nues ou habillées aux formes sinueuses, dansant en ronde dans les champs vagues ou se métamorphosant en végétaux. L'art nouveau est un style aux multiples facettes dont les significations sont complexes et variées, très riches.
Oui, tout ce courant est centré essentiellement à Munich, mais vous parliez aussi d'autres villes allemandes où on cultivait cette pensée.
Parallèlement au Jugendstil, dont les principes étaient retransmis par le journal d'art et d'essai munichois Jugend, la colonie artistique de Darmstadt s'est imposée comme un centre incontournable de l'art nouveau en Allemagne. Et cette entreprise a été menée par le mécène anglo-saxon, l'archiduc Ernst Ludwig von Essen, qui connaissait, pour lui avoir fait décorer quelques salles de son palais, le décorateur anglais Ashby.
Oui, nous lui avons consacré d'ailleurs une émission entière dans Carrefour des Arts sur Canal Academy.
Il rêvait donc de renouveler et de réussir l'expérience artistique communautaire anglaise de Chipping Campden, dont il avait eu connaissance en visitant l'Angleterre. Christa Leuk nous a rappelé la généalogie de Ernst Ludwig von Essen, et nous savons qu'il était pour une grande part anglais. Il offrit au jeune créateur allemand une colline surplombant la ville de Darmstadt, appelée la Mathildenhöhe, la colline de Mathilde. Et il fit construire sur cette colline de petites maisons pour les artistes. Et en 1898, il a choisi le peintre et décorateur Hans Christiansen pour venir résider le premier dans cette cité modèle. Puis, afin de faciliter les contacts entre les fabricants et les publics, il fit construire un espace destiné à exposer les productions des artistes de cette colonie.
Dans le plus pur style utopiste.
L'utopie est quelque chose de magnifique parce qu'elle exprime un réel désir de changer le monde par les formes, dans le cas précis de cette colonie de Darmstadt. Et très vite, d'autres artistes sont venus rejoindre la colonie. Peter Behrens, Joseph Maria Olbricht.
C'est donc bien l'architecte viennois.
Bien sûr. Oui. Ludwig Habich et le Belge Henri Van de Velde. Ces artistes étaient engagés pour 3 ans. Touchaient un salaire annuel, étaient logés gratuitement, mais devaient payer la construction de leur maison. Bien sûr, on leur consentait de généreuses conditions de financement et l'archiduc, en généreux mécène, supportait le reste des charges. Cette colonie fondée en 1899 était dotée d'un statut d'entreprise privée et la première exposition a eu lieu en 1900. Elle présentait des objets simples, solides, utilitaires et beaux, de vrais objets d'art appliqué. L'archiduc avait espéré que cette initiative relancerait l'économie allemande, mais les acheteurs ne se sentaient pas concernés par ce qu'ils voyaient, cet art ne faisait pas encore écho en eux, et ce furent des sarcasmes et des réprobations qui accueillirent cette exposition.
C'est le cas de la plupart des avant-gardes, malheureusement.
Effectivement, dès que l'art ne fonctionne plus comme un miroir dans lequel le public peut se mirer ou se reconnaître, il est rejeté. Les maisons de Peter Behrens et de Joseph Maria Olbricht, construites sur la Mathildenhöhe, merci, affirmaient la modernité de ces artistes, incarnaient les deux mots d'ordre de ces théoriciens de l'art nouveau, structure et fonctionnalité. C'était donc de vraies petites ou grandes maisons au Jugendstil où la ligne courbe et l'esprit organique dominaient, placées au cœur de la nature, en parfaite harmonie avec l'environnement. Hélas, l'entreprise fut déficitaire en 1902 et les artistes partirent ailleurs. Ils furent remplacés après le succès de l'exposition régionale de Hesse qui se tient en 1908 par d'autres artistes, mais l'esprit nouveau et utopiste qui animait cette entreprise s'était essoufflé. Ne nous laissons pas envahir par la nostalgie et tournons-nous vers Vienne, la magnifique, pour y découvrir le mouvement sécessionniste.
Pour notre plus grand plaisir.
Avant toute tentative d'explication, essayons d'être clairs sur le sens de ce mot. Le mot « sécession » est emprunté au latin « secessio », qui vient du verbe « secedere », qui signifie « se retirer ». Les artistes n'ont pas choisi ce terme par hasard. Ils voulaient faire référence à la « secessio » de la plèbe romaine, ces citoyens de Rome, qui n'appartenant pas à la classe patricienne, rejetèrent l'autorité de celle-ci et se retirèrent en armes sur le mont Aventin. Les jeunes artistes viennois, n'arrivant pas à se faire entendre par leur maître, ne se retirèrent pas sur une colline, mais créèrent leur propre espace institutionnel, armé de leur enthousiasme, de leur jeunesse, de leur vision romantique de la liberté et de l'art pour imposer à Vienne et au monde leur hétérodoxie.
Donc les sécessionnistes viennois étaient les vrais sécessionnistes, les rebelles ou les révoltés?
Pas tout à fait. La sécession viennoise ne fut en aucun cas une révolution, mais une prise de position contre l'orthodoxie de la Kunstlerhaus, la maison des artistes qui paralysait toute initiative esthétique en Autriche, et cela depuis 1861. Quelques injustices, ajoutées à une suite de comportements autoritaires de la part des personnalités qui menaient le monde des beaux-arts, ajoutèrent à l'exaspération des turbulents créateurs et provoquèrent la rupture avec les autorités de la vieille institution. C'est dans l'un de ces cafés, le café
Greensteidl,
qui joue dans cette ville de Vienne le rôle de salon littéraire ou de creuset artistique, que Joseph Hoffmann, Joseph Maria Olbricht, Karl Moll et Gustav Klimt, pour ne parler que des plus actifs, car ils étaient 50, fondèrent la Société des artistes viennois au mois de mai, au printemps 1897.
Donc, c'est la création de la sécession viennoise. Oui. Donc, mai 1897. Donc, Klimt fut le chef de file.
Donc, Klimt fut le chef de file, le président de cette association d'artistes. Et leur premier acte sécessionniste fut de créer une revue pour relayer, pour diffuser leurs principes esthétiques. Elle s'intitulait Versacrum, que l'on peut traduire par « printemps sacré », et paru en janvier 1898. Dans cette revue, il réaffirmait l'abolition des frontières entre art majeur et art mineur et l'universalité de l'art. Simultanément, ils décidèrent de construire un bâtiment idéal destiné à recevoir des expositions internationales et à montrer l'art contemporain. L'architecture, on le sait, doit refléter et exprimer une pensée. Le pavillon de la sécession de Vienne fut l'une des premières expressions publiques de l'art nouveau. Joseph Olbricht en fut le concepteur, Joseph Hoffmann fut chargé de la décoration intérieure et Coloman Moser exécuta le décor extérieur et tout cela fut achevé en 1899. Ce bâtiment ne fut pas d'emblée adopté par les Viennois, qui s'en moquèrent en lui donnant des surnoms péjoratifs comme la tombe du mardi, les toilettes assyriennes ou le chou d'or.
Ici, on doit citer la fameuse phrase qui me vient en tête « Si tu ne peux plaire à la foule par tes actions, contente-toi de plaire à une poignée de gens. » Plaire à la multitude est un mal. C'est une citation du grand Friedrich Schiller. Comme devise inscrite sur le non fameux tableau de Klimt, Nuda Veritas, que nous évoquerons d'ailleurs dans une prochaine émission.
Pour en revenir au bâtiment de la sécession, cet édifice placé sur la Karlplatz était on ne peut plus classique. Selon les propres termes d'Olbricht, le pavillon Sécession était conçu comme un temple de l'art qui offrirait à l'amateur un lieu de refuge calme et élégant. De plan carré, il donne un cube en élévation, tout blanc, couronné d'une coupole recouverte d'une dentelle de laurier d'or. Ce temple grec faisait référence à l'antique, à Palladio, à la Villa Rotonda à Vicenza. Olbricht reprenait les modèles architecturaux de la Renaissance italienne, de Brunelleschi, avec ce jeu du cercle dans le carré que cet architecte avait conjugué magistralement dans l'église San Lorenzo à Florence. Avec cette construction, Olbricht n'établissait aucune rupture avec le passé, mais installait un continuum. La sécession viennoise a exprimé dans cette architecture singulière sa volonté de rénover, d'améliorer, de transformer le monde sans pour autant rompre avec l'héritage classique auquel tous ces artistes demeuraient extrêmement attachés.
Ici, nous devons, à notre grand regret, quitter la Vienne fin de siècle et ses artistes si célèbres. Mais c'est pour mieux les retrouver dans une deuxième partie qui leur est exclusivement dédiée. Donc, rendez-vous avec Klimt, Hoffmann, Schiele et leurs successeurs dans une autre émission. Merci beaucoup, Brigitte Ducoussomao, de partager avec nos auditeurs vos riches connaissances. L'Art Nouveau n'aura bientôt plus de secrets pour nous. À bientôt au Carrefour des Arts sur Canal Académie pour la suite de notre voyage à Vienne 1900. Merci.